Salut les parents modernes et bienvenue dans le podcast pour vous aider à faire fleurir vos humains de demain. J'ai reçu une question qui me brûle les lèvres ce matin, puis vous allez probablement être plusieurs à tendre l'oreille parce que cette situation-là, on l'a clairement tous vécu et peut-être que t'en gardes d'affreux souvenirs. Et ça concerne la fameuse crise en public. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant décide que le moment est très bien choisi pour exprimer sa diarrhée émotionnelle en plein milieu de notre souper au Saint-Hubert barbecue ou dans la rangée des céréales à l'épicerie? Est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est un caprice? Et surtout, comment on devrait intervenir et réagir dans ces moments-là? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Je suis Mélanie, éducatrice spécialisée depuis presque, mon Dieu, 15 ans maintenant. Et je suis aussi maman deux fois. Puis mon troisième bébé, ben c'est WeKid, la plateforme éducative conçue pour accompagner les parents modernes. Les parents modernes, c'est vous, ça. Ma mission, c'est de rendre votre quotidien plus simple, plus doux, plus le fun dans les moments où ça va moins bien. Puis ben, quand ça va bien aussi. Mon podcast, c'est la référence parentale quand vous avez besoin d'être rassurée. Rassurez que vous êtes normal, que vous êtes pas seul, puis que vos enfants, ben, sont pas brisés. C'est LA référence quand vous avez envie de comprendre de quoi votre enfant a besoin. Parce qu'ici, je réponds à vos questions et je vous donne des tonnes de pistes de réflexion et des stratégies d'intervention claires et simples qui vont vous faire du bien, pas juste à vous, à vos enfants aussi. Si mon podcast ou mes formations en ligne aident un seul parent à se sentir plus outillé, plus épanoui ou plus en confiance, ben pour moi, là, ce sera mission accomplie. Puis si vous avez envie de contribuer puis de donner au suivant vous aussi, ben partagez les podcasts avec vos amis, avec vos proches ou avec votre communauté. Puis si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, ben allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Ça nous est très certainement tous arrivé un jour d'avoir à gérer une belle crise en plein milieu d'un Walmart, à la caisse à l'épicerie, dans le vestiaire à la garderie, en plein milieu d'un repas au restaurant ou dans une sortie hyper trépidante à la ronde, par exemple. Les crises en public de ton enfant, en passant, ça veut absolument rien dire sur tes compétences parentales. Ça veut rien dire de particulier sur ton enfant non plus. En fait, la seule chose que ça peut t'indiquer, c'est premièrement ben, que ton enfant te fait assez confiance hein, pour se laisser complètement aller et qu'il se sait en sécurité avec toi. Sinon, il se montrerait jamais aussi vulnérable. Et la seconde chose que ça démontre, ben, c'est que l'état d'esprit de ton enfant à ce moment-là était peut-être un petit peu moins adapté pour l'activité en question sans que tu t'en sois rendu compte. Hein? Ça arrive, ça m'arrive à moi aussi. Fait que peut-être que ton enfant était plus fatigué que tu le pensais ou peut-être qu'il y a eu une journée chargée en émotions ou en stimuli à la garderie puis peut-être que ben, l'activité au final n'était pas super adaptée en fonction de comment l'enfant se sentait à ce moment-là ou selon ses limites cognitives. Mais évidemment, comme parent, parfois, il est un peu trop peu, trop tard pour anticiper et prévenir ce genre de choses-là. Des fois, c'est très difficile à anticiper. Justement, comme je dis, moi la première, là, ça m'arrive très souvent de ne pas anticiper assez rapidement. Pas souvent hein, dans la petite enfance, c'est de laisser erreur. Mais donc voilà. Alors moi aussi, j'ai eu à gérer des tempêtes d'émotions en public. Ça arrive à tout le monde, sois-en super rassuré. Fait qu'aujourd'hui, j'ai sélectionné un courriel concernant cette situation-là que je te lis à l'instant. Bonjour Mélanie, ce week-end nous avons eu une situation des plus gênantes où je me suis sentie complètement démunie et aussi beaucoup jugée. Je t'écris dans l'espoir de mieux comprendre comment intervenir pour ne plus jamais avoir à vivre ce genre de situation. Je crois que je suis encore traumatisée. Alors ce week-end, c'était le baptême de mon bébé. Déjà, c'était un peu chaotique pour mon plus grand garçon de 2 ans. Ma mère a dû sortir de l'église parce qu'il refusait de demeurer assis ou qu'il voulait être dans mes bras. Ensuite, nous sommes allés dîner au restaurant avec toute ma famille et la famille de mon conjoint, mais c'était horrible. Et là, il écrit « horrible » en all caps. Premièrement, quand nous sommes arrivés au restaurant, mon garçon a immédiatement remarqué qu'il y avait un parc de l'autre côté de la rue et évidemment, ben oui, il voulait y aller. Nous avons tout de même réussi par miracle à le faire entrer dans le restaurant. Mais là, dans le restaurant, c'était l'horreur. Rien ne semblait faire son affaire, il refusait de rester assis et je comprends que c'était vraiment long pour lui. On s'est même pas rendu à commander nos repas qu'il a commencé à faire une énorme crise en disant qu'il voulait aller au parc. Il criait, il se lançait par terre, il se mettait mou comme de la guenille et il pleurait. Une chance qu'on avait une pièce réservée pour notre famille. Mais reste que je sentais tous les regards quand même sur nous. Je sentais qu'on dérangeait. On savait pas quoi faire. Mon conjoint a donc proposé d'aller au parc avec mon garçon quelques minutes, le temps que les assiettes arrivent. Mais ma belle-mère s'est interposée et elle s'est mise à dire que si on pliait à ses caprices, il allait devenir un enfant roi et que si on agissait comme ça avec lui, on lui montre que c'est lui le boss. Ouais. J'étais rouge de honte et de colère, j'avais le goût de pleurer et de prendre mes enfants pour m'enfuir de la situation. Ce que ma belle-mère s'est permis de me dire m'a piqué au vif car je ne suis pas du tout d'accord et ça me donne l'impression qu'elle remet en question mes compétences parentales. Je sais que je suis loin d'être parfaite, j'essaie de faire mieux, mais ça m'a tellement ébranlée que je ne sais plus quoi penser. Je ne te suis pas depuis très longtemps, mais j'aime vraiment ta douceur et ton approche. Je t'écris parce que je me doute que tu auras les mots justes et que tu pourras m'aider à mieux comprendre ce que j'aurais pu faire de différent. Je voudrais tenir tête aussi aux personnes qui ont des commentaires comme ça, mais j'ai jamais les mots pour expliquer c'est quoi l'approche bienveillante. Faut dire qu'on commence tout juste. Bref, désolée pour mon roman, je me suis dit qu'on n'était sûrement pas les seuls à vivre ce genre de situation. Oui. Effectivement. Alors, beaucoup, beaucoup de choses dans ce courriel-là. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit que ça me brûlait les lèvres parce que j'ai tellement de choses à dire que ça risque d'être très difficile pour moi de m'en tenir à un seul épisode. C'est sûr qu'il y a énormément de choses qui sont nommées dans la situation, qui sont couvertes dans la formation Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez. Et comme je le répète souvent, mais c'est la meilleure façon d'avoir une base extrêmement solide pour mieux comprendre nos enfants, pour mieux comprendre leurs limites cognitives, pour nous permettre d'ajuster nos attentes, d'ajuster nos exigences, puis d'intervenir évidemment dans le respect de leur rythme développemental. Une fois qu'on connaît, qu'on comprend mieux nos enfants, c'est beaucoup plus facile de s'ajuster puis de mieux répondre à leurs besoins. Et tout ça, évidemment, dans le but de créer une connexion solide et de faciliter notre quotidien. Et le podcast, ben, c'est vraiment la cerise sur le sundae. D'ailleurs, je pense que j'en ai jamais parlé, fait que là, je le dis, je profite de l'occasion. C'est l'accès, en fait, à la formation, elle est maintenant à vie. À vie, fait que tu peux l'acheter puis l'avoir pour toujours, l'écouter pour ton enfant, puis que tu l'écoutes maintenant, même s'il y a 10 mois, puis après ça, à 2 ans, puis à 5 ans, ou l'écouter pour tous tes enfants. Alors, si jamais tu attendais une occasion pour l'acheter, bien là, ça pourrait être un bon moment, même, en fait, surtout si ton enfant est jeune, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour avoir cette approche-là. Moi, je l'ai commencé avec mes enfants dès la naissance, même que mon attitude était différente quand j'étais enceinte de mes enfants, de Margot surtout. Et donc, ça pourrait vous accompagner bien, bien, bien longtemps et valoir clairement la peine et l'investissement. Donc, la première chose que j'ai envie de dire par rapport aux crises en public, puis vous allez probablement reconnaître mon anecdote récente, c'est qu'on surestime parfois la capacité de notre enfant à être disponible et fonctionnel devant une activité qui est peut-être parfois pas tout à fait adaptée à son état d'esprit ou à sa disponibilité. Et des fois, on a pas vraiment le choix, hein. Dans ce cas-ci, c'était le baptême du bébé frère, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, puis toute la famille est présente, donc ça va de soi que le frère de 2 ans, il est là lui aussi, mais on peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 2 ans soit dans son élément, dans un baptême. On peut s'attendre qu'un enfant de 2 ans, on peut pas s'attendre à ce qu'un enfant de 2 ans soit sage comme une image dans une église, parce qu'il a probablement jamais vu une église de sa vie. Peut-être pas dans son souvenir, en tout cas. Fait que c'est sûr que pour lui, c'est hyper intriguant. Ça peut être aussi intimidant de rencontrer plein de visages connus, mais plein de visages aussi qu'on n'a peut-être jamais vus ou pas vus souvent, surtout après une pandémie où est-ce qu'on a été habitué d'être un peu plus isolé à la maison ou de se voir en petit comité. Donc, juste ça, c'est beaucoup de stock pour un enfant de 10 ans. Fait qu'imagine pour un petit pet de 2 ans. C'est beaucoup lui demander. Moi, je trouve ça complètement génial que la grand-maman, à ce moment-là, soit sortie de l'église parce que c'est tellement un univers qui n'est pas approprié pour un enfant. Si on s'attend à ce qu'il demeure assis en silence, en regardant sagement maman puis papa qui sont sur une scène en avant avec mon bébé frère ou sœur qui pleure, puis qu'on s'attend à ce que tout se déroule bien, puis que notre enfant reste assis sagement, c'est qu'on a des attentes qui sont peut-être pas super adaptées à la réalité d'un petit bout de 2 ans, soyons honnêtes. Of course que ça va lui faire vivre toutes sortes d'émotions, hein? Pourquoi maman puis papa sont là avec le bébé et puis pas moi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va y arriver? Pourquoi il y a un monsieur en robe blanche avec eux? Pourquoi mon bébé pleure? Mon bébé, ben le bébé frère. J'assume ça parce que la plupart des bébés pleurent, hein, durant leur baptême. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai toujours vu. T'sais, peut-être que l'enfant se demande c'est quoi cet endroit-là que je connais pas? Pourquoi il y a tout plein de gens que je connais pas qui veulent me parler, me faire des câlins? Et voilà, donc dans ce genre de situation-là, il faut faire preuve d'une grande adaptabilité, nous les adultes, pas les enfants. Alors idéalement, si on n'est pas disponible pour être avec notre enfant, ben on devrait le déléguer, pas déléguer une personne qui va être avec notre enfant à une personne qui a un fort lien de confiance et d'attachement avec notre enfant pour justement pouvoir sortir de la pièce, sortir de la situation, puis aller faire quelque chose d'autre qui va rendre l'enfant plus confortable. Est-ce que c'est plié à un caprice? Absolument pas! C'est tout simplement être sensible aux limites de nos enfants puis au respect de ses besoins. D'ailleurs, c'est pas du tout un caprice et je crois très peu aux caprices, comme je l'explique dans la formation. Un besoin, un désir, c'est humain. Puis on sera jamais, jamais, jamais à côté de la traque en donnant de l'amour, de l'attention et en étant à l'écoute des limites de notre enfant ou de ce qu'il essaye de nous communiquer ou de ses besoins. Offrir un cadre ferme puis des limites fermes, comme je l'explique dans la formation, ça, oui, absolument. Mais un enfant qui désire être ailleurs, faire autre chose, jouer, par exemple, dans un contexte où l'activité est très peu adaptée à son âge, comme un baptême dans une église, c'est juste normal et ce n'est pas un caprice. Donc, dans une situation comme celle-là, ben, l'idéal, c'est de prévoir et d'anticiper. D'avoir toujours une espèce de kit de survie. Moi, je traîne toujours avec moi un kit de survie dans ma voiture pour adapter le contexte aux limites ou aux besoins de mon enfant. Donc, ça pourrait être d'apporter un jeu de craie. Là, c'est l'été, hein, les baptêmes, ça va être un peu dehors. Il y a un stationnement, on apporte un jeu de craie. On va faire du dessin dans le stationnement. On apporte des bulles, on apporte un ballon. On peut même inventer un parcours moteur si jamais on n'a rien avec nous. On invente un parcours moteur en utilisant la chaîne de trottoir, les escaliers, puis les choses qui se trouvent dans l'environnement. On fait des pirouettes, on roule, on s'amuse, on court. Fait comme je le disais, déléguer une personne à une personne de confiance en lui expliquant que à cette personne-là, ça se peut que ça soit difficile et long pour notre enfant. Puis surtout, gêne-toi pas pour sortir et pour aller dehors. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'enfant assiste à la cérémonie. On est en mode prévention. Parce que, au final, c'est quoi qui est le plus important? Que le grand frère assiste au baptême? Ou à une remise de prix ou à un événement qui a très peu d'importance et de signification pour lui ou de prévenir une tempête d'émotions dans cet événement-là qui est peut-être important pour toi. De respecter les besoins de ton enfant et de respecter ses limites cognitives parce qu'il en a. Je pense que la réponse est assez simple. En tout cas, dans ma perception à moi, après, on est tous différents. Hein? Mais donc, l'important ici, c'est d'ajuster nos attentes. Et ça, c'est une des clés les plus importantes. Donc, à la limite, de prévoir le pire pour avoir un plan de match et favoriser les réussites. D'ailleurs, j'en ai parlé dans une capsule sur le compte Instagram de WeKid récemment. Hein, quand on voit que l'activité, quand on est en train de faire quelque chose, même si on a une super belle idée puis l'activité ne fonctionne pas du tout, ben, il ne faut pas se gêner pour l'interrompre rapidement puis pour faire autre chose tout simplement sans faire sentir l'enfant coupable. Donc, je vous invite à aller voir cette capsule-là qui risque de vous donner quelques petites recommandations ou quelques petites stratégies pour avec toutes les activités qui s'en viennent durant l'été. Donc ensuite, une fois que le baptême est fini, la maman nous explique qu'ils vont au restaurant en famille. Bon, je sais qu'on aime ça, aller au resto, c'est convivial, c'est agréable, on n'a pas besoin de penser à cuisiner, à faire la vaisselle après. Vraiment, I get it. Je suis une grande fan de restaurant moi-même. Mais depuis que j'ai des enfants, là, je pense qu'on a été au resto peut-être 5 fois. Oui, il y a eu une pandémie, mais ça ne m'a pas empêchée d'y aller. sans les enfants. Le restaurant, c'est une super place d'adultes ou avec des enfants un peu plus grands, mais c'est pas super adapté pour les enfants, soyons honnêtes. C'est très, très difficile pour eux de coopérer, de comprendre c'est quoi l'attente puis pourquoi on attend, de rester assis, d'attendre que tout le monde ait fini de manger et de payer avant de pouvoir se lever. Voilà. Fait qu'en plus de payer le gros prix, nous, de payer une facture salée et d'être agacé pendant tout le repas parce que notre enfant écoute pas, notre enfant coopère pas, notre enfant parle trop fort parce qu'il mange même pas le quart de ton assiette, ben on aurait pu peut-être éviter cette situation-là. D'ailleurs, ton enfant aura beau être hyper affamé, il risque de jamais vraiment manger plus que ça parce que pour lui, en ce moment, dans un restaurant, c'est juste beaucoup trop de stimuli et d'inconnus. C'est d'ailleurs probablement exactement pour cette raison-là que le take-out a été inventé. Je sais pas si ce que je dis c'est vrai, là, mais ça fait bien du sens pour moi. Aller au restaurant, ça veut dire beaucoup de bruit, un environnement inconnu, beaucoup de visages inconnus, beaucoup de choix, beaucoup de consignes à respecter, une routine chamboulée et de très longs moments d'attente. Alors c'est tellement normal que le petit coco de 2 ans, après un baptême dans une église, avait pas mal plus envie d'aller jouer au parc que de s'asseoir encore une fois pour manger au resto. C'est une des bases de la parentalité bienveillante. En fait, j'ai pas mal plus envie de l'appeler la parentalité empathique. Parce que pour moi, ça fait pas mal plus de sens, puis vous allez comprendre pourquoi. C'est justement de retirer nos lunettes d'adulte, puis d'essayer de comprendre, de se mettre dans les bobettes de notre enfant et d'être beaucoup plus empathique dans notre attitude et dans notre approche. Moi, là, si j'avais 2 ans, 4 ans ou même 6 ans, il est midi et demi. J'ai faim! OK, j'ai vraiment faim. D'habitude, là, moi, je mange à 11h30. Donc là, j'ai faim, puis là, on me présente un menu, des images avec des croquettes de poulet en forme d'animaux, puis une crème glacée en face de clown. Puis là, on me dit que je vais pouvoir manger ça. Mais pas de suite! Pardon? Moi, là, c'est là, là que j'ai faim, là. Puis là, la faim, elle commence à me rendre pas mal impatiente, puis à mériter, parce que du haut de mes 2 ans, là, j'ai aucune notion de temps. Je comprends même pas pourquoi on attend, pourquoi on est ici, pourquoi on n'est pas à la maison. Ici, il n'y a pas de jouets. Je dois rester assis à rien faire. Puis là, je commence à être fatiguée aussi, parce que d'habitude, là, à cette heure-là, ben, je m'en vais bientôt me reposer. Puis moi, ben, j'ai eu déjà un gros matin. Puis là, on me demande de rester assis à la table. Mais mes yeux, là, ils voient plein de choses que je connais pas, là. Puis là, moi, j'ai envie d'aller explorer. J'ai envie d'aller regarder par la fenêtre. J'ai envie de toucher à tout. J'ai envie de voir qu'est-ce que les gens font. Puis qu'est-ce qu'ils mangent dans leur assiette. Puis c'est qui, d'ailleurs, tous ces gens-là que je connais pas? Je veux marcher, moi. Je veux me promener. Je veux aller jouer dans le parc que j'ai vu tantôt dehors. Je veux pas attendre. Je comprends même pas c'est quoi le mot attendre. J'ai 2 ans, moi. J'ai faim, je suis fatiguée. Et j'ai très envie de manger de la crème glacée aux Smarties. OK? Oui, c'est pas mal comme ça que ça se passe dans la tête d'un enfant, mais il va pas le verbaliser. Il va pas le verbaliser comme ça. Il va le verbaliser comment? En pleurant, en chignant, en criant, en finissant par faire une crise en plein restaurant parce que c'est trop pour lui. Donc oui, à ce moment-là, pourquoi pas sortir puis aller au parc? Est-ce que c'est un caprice? Non, absolument pas, c'est pas un caprice. C'est juste essayer d'adapter la situation pour qu'elle soit plus convenable à un enfant. C'est favoriser sa collaboration plutôt que de provoquer, sans le vouloir évidemment, une escalade de crise. C'est lui offrir un environnement plus adapté à ses besoins, à son envie de bouger puis à son envie d'explorer. Et c'est aussi d'avoir des attentes plus réalistes et d'être empathique puis compréhensif envers ses limites, ses capacités, plutôt que de vouloir prouver à toute la famille qu'on peut y arriver, puis que c'est pourtant pas si compliqué que ça d'aller manger au restaurant en famille, puis qu'on devrait pouvoir y arriver. Fait que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas aller pas manger au restaurant, c'est juste ayez des attentes réalistes et essayez d'avoir un plan de match pour que tout ça se déroule le plus adéquatement possible, le plus paisiblement possible, puis peut-être aussi essayer d'ajuster l'horaire aussi pour convenir aux besoins de vos enfants, parce que nous, on est des adultes, on est beaucoup plus flexibles. Nous, manger à 11h30 ou manger à 1h30, il n'y a pas vraiment de grosse différence pour nous. On est capable d'attendre puis de patienter. Donc, en acceptant de sortir du restaurant pour aller au parc le temps que le repas soit servi, si c'est ça que ça prend, Oui, c'est peut-être plate pour papa, maman, grand-maman, parce que notre enfant, il n'est pas avec toute la famille à passer un bon moment ensemble. Mais, puis que nous non plus, si on est évidemment avec notre enfant, on n'est pas avec le reste de notre famille. Mais, on va se le dire, c'est bien moins pire de sortir pendant 15-20 minutes, d'aller jouer au parc, que notre enfant ait bougé, soit contenté de revenir, il s'assit, il mange, que de gérer une crise de béquine, puis à finir par partir de toute façon en beau maudit parce que notre enfant a gâché ce beau moment-là. Fait que l'enfant de 2 ans qui demande pour aller au parc à la place, c'est pas un caprice. Il exprime, en ce moment, je suis vraiment pas confortable, je suis à 2 doigts d'éclater parce que je me sens fatiguée, irritée, j'ai faim, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment à contrôler mes émotions, puis j'ai besoin d'air, je veux sortir de cette situation-là qui est inconfortable pour moi. Et il l'exprime à la manière d'un enfant en faisant une crise pour aller au parc. Parce que pour lui, le parc, c'est un terrain connu et que c'est un endroit qui risque de l'apaiser. Donc, un enfant qui fait une crise dans un restaurant, dans une rangée d'un magasin pour avoir une surprise, c'est probablement même pas la surprise qui est importante plus que le « je suis pas bien ici, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de stimuli, j'ai eu une grosse journée, j'ai énormément de difficultés en ce moment à collaborer aux consignes parce que même moi-même, je m'endure pas puis je sais pas qu'est-ce que j'ai ». Un enfant qui a eu une journée chargée en émotions à la garderie, avec lequel on va à l'épicerie, parce qu'on ne sait pas, évidemment, qu'est-ce qu'il y a eu comme journée, là, c'est normal, on a une petite commission à l'épicerie, on y va. Puis là, ben, il voit une boîte de céréales au chocolat, puis il aimerait ça en avoir ici maintenant. C'est pas les céréales le problème, c'est le non qui vient d'encaisser, nous qui lui dit non, on ne va pas acheter ces céréales-là, qui agit comme un trop-plein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est pas un caprice en lien avec les maudites céréales. C'est juste qu'à ce moment-là, la fatigue, la faim peut-être, le fait d'avoir fait des immenses efforts durant toute la journée pour réguler du mieux qu'il pouvait ses émotions, d'avoir reçu puis géré une tonne de stimuli, ça fait qu'à la fin de la journée, il est juste plus capable de s'endurer ou il est plus capable de recevoir une consigne de plus ou peut-être qu'il est plus capable de recevoir un non, encore une fois, un autre non dans sa journée. Fait que ce que ton enfant essaie de dire dans toute sa maladresse, c'est « aide-moi maman, aide-moi papa, j'ai besoin d'être dans un environnement connu où je me sens en sécurité pour exprimer mon trop plein d'émotions et laisser sortir ma diarrhée émotionnelle. » Alors oui, sortir du restaurant, sortir de l'épicerie, sortir de la garderie, en prenant votre enfant en sac de patates s'il faut, malgré lui, même s'il se débat, pour l'amener dans un endroit sécuritaire pour lui. Ça, c'est nécessaire. Retourner à la voiture, sortir dehors dans un endroit où vous allez être juste toutes les deux, dans un endroit où vous allez être en sécurité, où il va pouvoir exprimer ses émotions seul, sans que t'ailles la pression du regard des autres. Aussi, parce que ça peut influencer tes réactions. Puis une fois à l'écart, on valide les émotions de l'enfant. Ouf, c'est pas facile hein, de rester dans un restaurant, d'attendre très longtemps puis d'écouter toutes les consignes, surtout quand on a faim. Je comprends. Mais on veut-tu, on va aller jouer au parc en attendant, puis on va aller manger notre repas quand il va être sur la table dans 15 minutes. Ce que notre enfant a besoin en ce moment, là, c'est de se sentir compris, d'être validé dans ce qu'il vit. Puis non, ça va pas faire de lui un enfant roi, ça va juste faire de lui un enfant qui est normal puis qui est accepté. Il va comprendre aussi qu'il a le droit d'exprimer ses émotions puis que c'est sécuritaire de le faire avec ses parents parce qu'on le comprend puis qu'on l'aide. Il va se sentir accepté, soulagé, puis ça risque de le calmer aussi beaucoup plus rapidement. C'est nous, les adultes, puis même si je le sais, là, c'est plate des fois d'avoir à mettre fin à des activités ou de modifier l'activité pour que ça soit plus acceptable pour l'enfant. Mais ça demeure que c'est notre rôle de parent. Puis c'est temporaire, les amis. Un jour, ton enfant va avoir 8, 9, 10 ans, puis il va comprendre les notions de temps. Il va comprendre c'est quoi aller au restaurant. Il va comprendre pourquoi on n'achète pas de Kinder Surprise à l'épicerie. Il va avoir les mots pour parler, pour t'expliquer qu'est-ce qui le dérange, pourquoi il trouve ça plate. Il va pouvoir faire des choix différents aussi, puis il va avoir une meilleure capacité à réguler ses émotions si on lui a offert tous les outils pour y arriver, bien sûr. En fait, en ayant tous les bons outils en main, là, ton enfant va pouvoir faire presque tout ça bien avant 8 ans. Je ne dis pas que c'est toujours parfait. Les enfants ont tous des mauvaises journées. Ils sont en apprentissage puis ils font des erreurs comme tout le monde. Leur cerveau, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas encore entièrement développé. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que ma fille de 4 ans et demi, elle a tellement une belle intelligence émotionnelle qu'elle m'impressionne tous les jours. Et elle est capable de venir au restaurant et d'être super patiente et de bien écouter les consignes. Mais faut qu'on rende l'activité, la sortie au restaurant, qu'elle soit adaptée à mes enfants. J'amènerai pas ma fille au restaurant à 1h30 l'après-midi pour dîner alors qu'elle a pas mangé depuis 9h30, 10h, puis que c'est en temps normal à cette heure-là, c'est son repos, tu sais. Mais c'est pour vous faire vivre les mêmes genres de résultats que ce que je vis avec mes enfants, que j'ai construit la formation Apprivoiser la petite enfance et doigts dans le nez. Parce que, selon moi, tout part d'une compréhension différente de nos enfants. Une compréhension qui est empathique de nos enfants pour pouvoir avoir les outils pour favoriser ces réussites-là, pour favoriser les apprentissages, pour favoriser leur estime puis leur collaboration. Des fois, il faut essayer de juste plus voir plus loin que le simple comportement qui est tant dérangeant, puis essayer de comprendre le message qui se cache plutôt que juste voir le déclencheur comme étant un autre caprice. Hein? Il veut aller au parc, il veut une boîte de céréales, il veut un Kinder Surprise. Je vous le dis, c'est le genre de formation qui va changer du tout au tout votre parentalité. Puis je le dis avec beaucoup de confiance et de sincérité. D'abord parce que j'y crois vraiment beaucoup. Et parce que c'est aussi le feedback que j'ai reçu de plusieurs centaines de familles. Puis ça, c'est pas rien. Je vais poursuivre dans un autre épisode sur les commentaires ou les jugements que les autres ont par rapport à notre parentalité ou quand les autres interfèrent avec nos enfants dans une approche qui ne nous plaît pas dans quelques semaines. Alors, restez à l'affût. Je vais pouvoir faire un podcast pour vous aider à surmonter la peur du jugement et pour avoir votre famille dans votre équipe plutôt que dans le clan adverse, parce qu'on ne dira jamais assez. Ça prend un village pour élever des enfants, mais encore faut-il être sur la même longueur d'onde. Tourlou!